Bonjour à tous.
Ça va bien? Ça me fait penser à mon jeune temps quand les enfants sortaient. Hein. Dans mon jeune temps, j'étais jeune. Fait que c'est moi qui sortais. Je vous invite à tourner dans cette lettre de Paul aux Philippiens au chapitre 1er. Ma sanctification dépend-elle seulement de mes efforts? Le fait que on devient saint. En fait, j'ai pensé à plusieurs titres pour mon message. Je me suis arrêté à cela à cause du terme « seulement ». Mais ça aurait pu être « la grâce et mon comportement ». Comment vivre une vie dans la grâce? Comment la grâce agit-elle dans la vie du croyant? On est sauvé par grâce, puis après. Et ce qui motive ce message, c'est que dans notre cellule de prière, on fait l'étude d'un livre. Et le livre veut nous montrer, en fait, que tout est par grâce. Par contre, on arrive dans un chapitre particulier où là, il interprète un texte, là, parce que là, ça a fait une belle discussion théologique autour de ce texte-là. Et puis, mais le langage était tellement fort que c'est comme des fois si... OK, là, tu es sauvé par grâce. Tout est par grâce, tu sais. Mais là, si tu es chrétien, là, tu marches. Là, c'est... T'embarques ou tu débarques? Là, tu fais les choses. Oh, la grâce de Dieu est présente. Mais là, tu fais, là. Là, faut... Là, go, là. Faut que tu fasses. Et j'aimerais poser un regard sur, et là plusieurs textes peuvent être bons pour traiter ce sujet, et je me suis arrêté sur Philippiens 1, 27. Le terme sanctification n'est pas présent dans le texte, mais quand même il réfère à ces notions. Lisons à partir du verset 27 jusqu'à 30. Seulement, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile du Christ, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant d'une même âme pour la foi de l'Évangile, sans vous laisser aucunement intimider par les adversaires. C'est pour eux une preuve de perdition, mais pour vous de salut. Et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire en Christ, mais encore de souffrir pour lui, en soutenant le même combat que vous m'avez vu livrer et que vous l'apprenez, je livre encore maintenant. La sanctification veut dire quoi? Ça réfère à la sainteté. Mais dans la sainteté et dans l'étude de la grâce, il y a deux sujets qu'il faut qu'on tienne compte. La souveraineté de Dieu, parce que c'est un don de Dieu, et notre responsabilité. Et souvent, quand on lit des livres, on perd l'équilibre entre les deux. Et là, tout est par grâce, puis c'est un des plus beaux livres qu'on a lu jusqu'à maintenant. Puis là, à un moment donné, paf, il arrive un chapitre qui parle de notre responsabilité, puis là, on dirait que la grâce, elle n'existe plus. Et à la fin du chapitre, on est quasiment en train de... Écoute, je suis vraiment chrétien, moi, là? Parce que le comportement qu'on doit avoir est devenu finalement le signe de notre christianisme. Et j'aimerais qu'on regarde cette question. Mais commençons par quelques réflexions sur la sanctification. Première question, que signifie être sanctifié? Je vous donne des choix de réponse. Ne pas fumer. Fuir l'immoralité. Ne pas boire d'alcool. Prier le plus souvent possible et aller à l'église régulièrement, mener une vie juste, et pour mêler le tout, toutes ces réponses. Et pourtant, c'est toutes des choses qu'on reproche à nos jeunes et à nos moins jeunes. Mais ça veut dire, je pense que mener une vie juste. Devenir progressivement à l'image de Jésus-Christ. C'est ça la sanctification. Mais ça se fait pas d'un coup sec. Et c'est un sujet qui est extrêmement important parce que, en fait, ça nous parle de la vie chrétienne quotidienne, moment après moment, instant après instant, jour après jour. Comment que la grâce travaille dans nos journées, dans notre vie quotidienne? Comment ça fonctionne? Alors, pour continuer, donnons une définition au mot sanctification. Wayne Grudem, c'est une des belles définitions qu'on a, qui revient dans beaucoup de livres de théologie, nous dit ceci. La sanctification est une œuvre progressive de Dieu et de l'homme. Elle nous affranchit de plus en plus du péché et nous rend semblables à Christ dans la vie de tous les jours. Dans cette définition, on apprend que la sanctification est le résultat de la puissance de Dieu. Mais aussi, elle suppose nos efforts. Et aussi que c'est progressif. Alors, si vous pensez que vous êtes déjà saint, parfait, ben vous ne vous trompez pas nécessairement. Mais on n'est pas rendu glorifié. Et là, il faut faire la distinction. Et la sanctification, c'est un combat qu'on doit vivre. C'est un combat pour notre sainteté. La sanctification concerne le péché dans nos vies. C'est assez pratique? C'est pratique. Mais quand on sort un beau mot comme ça, sanctification, là, on commence à... Ah, ça va être plat. Hein? Et là, on corde du bois pour les hommes. On cogne des clous. Non, ça concerne le péché dans nos vies. Et comment la grâce agit dans ça? Dans l'Ancien Testament, on voit que la sainteté ou la sanctification, c'est présent. Mais la majorité du temps que c'est utilisé dans l'Ancien Testament, c'est qu'il veut faire référence à une séparation. On sépare le pur d'avec l'impur. Et donc, il y a des objets qui nous sont dits dans le temps qui sont saints. Et là, on ne s'approche pas de ces choses de la même façon que les autres. C'est quelque chose qui est pur, quelque chose qui est séparé, c'est quelque chose qui est mis à part, c'est quelque chose qui est... Et le Nouveau Testament s'en vient et conserve cette notion de séparation, mais tout comme l'Ancien Testament, la seule personne sainte, réellement sainte, c'est Dieu. Et sur cette base, à cause qu'il lui-même est saint, nous allons le devenir. Lévitique 11 nous dit, « Soyez saints, car je suis saint. » Et Pierre, dans le Nouveau Testament, va reprendre cette citation et va dire, « Vous serez saints, car je suis saint. » Et Dieu est la source de cette sainteté qui va nous donner avec son esprit. Dans la sanctification, dans la vie du croyant, Dieu sépare le croyant d'avec son amour naturel pour le péché. Et progressivement, il nous amène à voir le monde comme lui voit le monde. C'est ça la sanctification. Je vois les choses comme Dieu, de plus en plus comme Dieu. Le péché, c'est le péché, mais il faut que progressivement, que je déteste ces choses. Mais la sanctification est utilisée dans le Nouveau Testament, surtout dans le Nouveau Testament, au moins de trois façons. Premièrement, c'est une position. Donc, nous sommes saints. Quand il dit aux Corinthiens, par exemple, à l'Église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés. C'est une position, ça. Nous avons été sanctifiés. Je n'ai pas de but à atteindre. C'est une situation dans laquelle nous nous trouvons en tant que croyants. Et nous mène à une certaine position. Mais aussi, ça peut être progressif. Et donc, tous ces appels, travaillez à votre sanctification, puis joignez, et vous allez progresser grâce sur grâce, de gloire en gloire, à l'image de Christ, de plus en plus. Mais aussi, il y a la sanctification finale, ou ultime, tout dépendant de la littérature, qu'on appelle aussi souvent la glorification. Et aujourd'hui, j'aimerais m'intéresser surtout à cette œuvre de Dieu progressive dans le croyant. Le salut par grâce. Ça, on est assez familier avec ça. Si vous êtes chrétien depuis un certain bout, on sait qu'on est sauvé par grâce. Et qu'en est-il de mon comportement ou de ma lutte contre le péché. Est-ce que la grâce agit toujours? Et là, juste poser la question comme ça, si vous êtes encore chrétien depuis assez longtemps, vous allez dire, bien, c'est sûr, la grâce, elle existe dans la vie du croyant. Et pourtant, à entendre beaucoup de prédicateurs, il semblerait que mes efforts personnels prennent encore plus de place que la grâce a pu exister dans la vie du croyant. Et on perd souvent cet équilibre. Et quelle doit être la place des œuvres ou de mes efforts dans ma vie? Paul nous dit seulement, et voici l'exhortation principale de tout le passage qui va gouverner le restant de l'exhortation, « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. » Conduisez-vous, ce n'est pas un choix de réponse, là. C'est un impératif. Il nous laisse quelque chose à faire. Faites, conduisez-vous d'une manière digne. Autrement dit, Paul veut qu'on agisse de telle manière qu'on va être crédible pour l'Évangile. Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Et pour le chrétien individuel, et pour l'Église dans son ensemble, on doit avoir cette attitude. Pourquoi? Il en va de notre crédibilité. Et Paul nous fait comprendre que la liberté qu'on acquiert en Jésus-Christ dans ce passage, et dans toute la section qui suit aussi jusqu'à la fin du chapitre 2, Paul nous fait comprendre que la liberté qu'on acquiert, c'est pas la liberté de faire tout ce que bon nous semble. Là. Je suis sauvé par grâce, achale-moi plus, je peux faire ce que je veux. J'ai mon ticket. Mais non, c'est pas ça la vie chrétienne. Non, il y a quelque chose qui va avec ça. Mais ce qui nous fait comprendre, c'est que l'Évangile nous libère pour rechercher la sainteté de Dieu. De trouver notre joie dans cette recherche de sainteté. Et la question que j'aimerais qu'on regarde, et que c'est l'arrière-plan, c'est comment la grâce agit-elle après ma conversion? Et j'ai trois choses que je veux regarder. Notre foi est un cadeau ou un don de Dieu. C'est la base. Deuxièmement, c'est que notre sanctification est un cadeau de Dieu. Et troisièmement, c'est que notre sanctification est alimentée par notre foi. Et c'est un sujet un peu thématique, dans lequel les applications, on va mettre les blocs et on va regarder quelques applications tirées de ce verset. Et j'aimerais vous montrer un peu l'unité de la pensée biblique sur ces sujets, qu'on va appliquer à partir aussi de Philippiens. Notre foi est un cadeau de Dieu. Votre foi est un don de Dieu. Si je le dis comme ça, on fait face à au moins deux difficultés. La première, mon expérience personnelle. J'ai mis ma foi en Jésus-Christ. J'ai mis ma foi, vous comprenez? J'ai mis, c'est mon expérience. Dans mon expérience, moi, j'ai la foi en Jésus-Christ. Et pourtant, d'un autre côté, deuxième problème, il y a cette question de la souveraineté de Dieu. L'Évangile, c'est la bonne nouvelle de Dieu qui nous appelle à mettre notre foi en cet Évangile. Et là, comment garder cet équilibre entre la souveraineté de Dieu et notre responsabilité? Et pourtant, le verset 29, dans notre passage, rend clair, on peut ne pas aimer ça, et cela de la part de Dieu, car il vous a été fait la grâce non seulement de croire, donc croire, avoir la foi, est un don de Dieu, mais aussi de souffrir pour lui. Et ça aussi, c'est intéressant, la grâce de souffrir pour Dieu. La foi est un don de Dieu. Comment comprendre ça? Premièrement, prenons un passage extrêmement clair en ce qui concerne cet énoncé, et j'ai nommé, c'est probablement le plus clair, là, c'est Éphésiens 2, 8. C'est par la grâce, en effet, que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Qu'est-ce qui est le don de Dieu? C'est cette foi-là. qui nous provient par la grâce. La foi n'est pas produite par votre habileté à découvrir que Jésus est tellement merveilleux. C'est un don ou un cadeau de Dieu. Et dans le contexte d'Éphésiens 2, le passage avant de dire ces paroles nous dit quoi? Bien, le passage commence au verset 1. « Pour vous, vous étiez morts par vos fautes et vos péchés. » Avant d'être convertis à Christ, nous sommes morts. Et s'il y a un sujet que la Bible, elle utilise un langage extrêmement fort, il n'y a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de long débat sur le fait de comment Dieu nous perçoit. Donc, oui, il y a mon expérience, mais en même temps, il y a comment Dieu voit les choses. Et lui, Dieu, bien, il nous dit que nous sommes morts. Mais la mort spirituelle, c'est l'inhabilité à faire un choix. T'es mort. Tu peux pas faire rien, t'es mort. Il n'y a pas de terme plus fort que ça. Et puis, il n'est pas dit, vous manquez d'intelligence, fais deux doctorats, ou va te faire éclairer. J'ai rien contre ceux qui ont des doctorats. D'ailleurs, je vous envie, je rêve un jour. Mais il n'est pas dit, allez vous faire éclairer par un moine. Non, il était mort. Le moine aussi. Il était mort. Spirituellement, ben en fait, c'est Genèse chapitre 3. À Genèse chapitre 3, il y a quelque chose que l'homme a perdu. Et qu'est-ce qu'il a perdu? 1 Corinthiens chapitre 2, verset 14. Mais l'homme naturel, je les avais mis. Mais l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître. Parce que c'est spirituellement qu'on en juge. On est mort. Qu'est-ce qu'on perd? On perd la capacité de connaître Dieu. Je ne l'ai pas. Et là, j'ai oublié mon livre dans mon auto, mais il y a un nouveau livre qui est sorti, et c'est, dans le fond, le gars, c'est un athée, il ne croit pas en Dieu du tout. Là. D'ailleurs, il a écrit un livre contre Dieu, c'est vraiment... Mais et là, il a écrit un livre contre la psychanalyse. Mais au début de son livre, là, il dit là, que c'est tellement merveilleux de la recherche d'une quête de sens sans Dieu. Puis là, il y a tout un long paragraphe où ce qui démolit toute la religion. On ne peut pas, il n'y a pas une plus belle illustration qu'un livre d'un athée. Je veux dire, c'est vivre par soi-même. Et puis là, lui, en plus, il est très ouvert pour le dire. Il est hédoniste, sensualiste. C'est-à-dire que je recherche les plaisirs sexuels et la liberté qu'il m'ait donné sans Dieu. Pour lui, là, les choses de l'Esprit de Dieu, c'est une folie. On est une gang de raisins ici, qui se rassemblent. Non, mais c'est ça. Parce que nous sommes morts sans Dieu. Il n'y a pas d'ambiguïté, c'est clair. Ça, il n'y a pas de trouble. Mais là, ouais, ça c'est Paul, mais le christianisme, ça c'est pas Jésus. Ben, ton nom dans Jean chapitre 6, je vous les mets. « Nul ne peut venir à moi si, le terme grec est plus fort, c'est « à moins que le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Il, nul ne peut venir à moi. » 6,63 dans Jean, c'est l'Esprit qui vivifie. Donc, la chair ne sert à rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, c'est par l'Esprit de Dieu qu'il va vous donner cette vie-là. Et comme si c'était passé, et il ajouta, à 665, « C'est pourquoi je vous ai dit, nul ne peut venir, vous n'avez pas cette vie à l'intérieur de vous-même, nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. » Ouais, mais je suis quand même libre de faire un choix. Après tout, Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, tu as la capacité de croire que, puis avec ça, que tu vas avoir la vie éternelle. Mais qu'est-ce que nous enseigne Jean chapitre 3? Tournons dans Jean chapitre 3 pour quelques instants. Jean chapitre 3, c'est l'exposé avec Nicodème. ce pharisien, au verset 3, Jésus nous dit, « en vérité, je te le dis, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il faut. Il en va de notre éternité. Il en va de ton accès au royaume. Il faut que tu naisses de nouveau. Qu'est-ce que tu dis là? Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il une seconde fois entrer dans le sein de sa mère? » Alors Jésus va continuer, Nicodème. Tu comprends pas, là. En vérité, je te dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, tu sais, comme si c'était encore plus clair, tu sais, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est quoi naître d'eau? Alors, dans mes études, j'ai trouvé, c'est un passage que j'ai étudié beaucoup, et j'ai trouvé au moins 7 interprétations différentes. Mais pourtant, Jésus en a juste une dans la tête. Naître d'eau. Comment comprendre ça? En fait, je vous dirais que c'est la répétition du verset 3. Et une façon peut-être un peu simpliste qu'on peut résoudre le problème, c'est juste de mettre en parallèle les versets 3 et 5 et d'enlever ce qui est pareil. Donc, qu'est-ce qui est nouveau dans le verset 5? En vérité, je te le dis. Verset 5, en vérité, je te le dis. On enlève ça. Il ne peut voir le royaume de Dieu. Il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. C'est pas mal synonyme. On élimine ça. Qu'est-ce qui est différent? Si un homme naît de nouveau, si un homme naît d'eau et d'esprit. Donc, cette nouvelle naissance, ce qui est ajouté, c'est que c'est une naissance d'eau et d'esprit. Et là, puis-je renaître? D'eau et d'esprit. Mais Jésus continue. Il n'a pas fini là. Ce qui est chair est chair. Ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Oui, mais... comment? J'aimerais ça, là. Alors Jésus va éclairer son point. Comment naître de nouveau? Et là, écoutez bien le verset 8. Là, il faut que je vous naisse de nouveau. Là, Nicodème, OK, tu comprends pas, mais écoute bien. Le vent souffle où il veut. Et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de quiconque est né de l'esprit. Et là, j'imagine la face de Nicodème. Qu'est-ce que tu dis là? Et Jésus le reprend au verset 9. 9 et 10. Nicodème reprit la parole. Comment cela peut-il se faire? Et Jésus lui répondit. Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas cela? Qu'est-ce que Nicodème aurait dû savoir? L'Écriture, c'est le docteur d'Israël. Il est probablement un des responsables d'une école rabbinique. Nicodème, tu sais pas ça? Et là, on pose toute la question, mais quelle Écriture qu'il aurait dû savoir? Naître de nouveau? Aucune. Eau et esprit? Plusieurs. Mais le plus pertinent dans le contexte, Ézéchiel chapitre 36. Versets 25 et 27. « Je répandrai sur vous. » Puis c'est le texte qui parle de la Nouvelle Alliance. Il trouve un parallèle certain en Jérémie 31 aussi. Et c'est deux textes de la Nouvelle Naissance. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je purifierai toutes vos souillures et toutes vos idoles. Et de toutes vos idoles, je vous donnerai un cœur nouveau. Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai votre corps. » Le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous, et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez mes lois. Le premier terme, eau, réfère à la purification. La purification. Le second, Le second terme, l'esprit, c'est qu'il va transformer notre cœur. Un cœur de pierre, c'est un cœur qui c'est mort, ça. Et je vais lui donner la vie par mon esprit. Je vais lui donner la vie. Et là, il va être vivant. Puis là, il va pouvoir porter du fruit pour moi. Et ça va être la marque de la nouvelle alliance. Des cœurs qui sont morts, qui deviendront vivants. Et là, c'est clair que lire ce verset, « Je répandrai sur vous, je purifierai, je vous donnerai, je mettrai, j'ôterai, et je vous donnerai, je mettrai, je ferai. » C'est Dieu qui parle. Qu'est-ce qu'on a à faire là-dedans? Le salut est possible seulement par l'intervention de Dieu. Non, l'homme n'est pas libre. Il est esclave. Jésus nous dit plus loin dans l'Évangile, il dit « Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. » Si on connaît la vérité puis elle nous affranchit, c'est parce que préalablement, j'étais pas libre. Et donc, quand il dit dans Jean 3,16 qu'il a tant aimé le monde, c'est pas parce que le monde était une planète qui avait tellement d'humains aimables. Non. Son amour est rendu grandiose justement parce qu'on était tellement mauvais. Et par son intervention, c'est une naissance qui vient d'en haut. C'est lui qui nous donne cette naissance. C'est lui qui va nous donner cette foi qui nous rend aptes à mettre notre foi en Jésus-Christ. Et à ce moment, Jésus n'est plus sa pierre d'échappement, ce rocher de scandale, mais devient sagesse et puissance de Dieu pour nous. Et ça, c'est ça l'Évangile. C'est pas moi. Alors, quand il y a un mort, ça prend la vie. C'est un miracle. C'est un acte de création. Quand il nous dit que celui qui est croyant est une nouvelle création dans 2 Corinthiens 5, il n'est pas en train de dire qu'il a pris quelque chose qui était un peu défaite et qu'il l'a rénové. Là. Pas la théorie de l'évolution appliquée dans la vie du croyant. Là. Pas ça. Là. Le mot création ici, là, c'est créer à partir de rien. On n'est rien sans Dieu. Et il nous donne cette vie. Et là, on peut s'approcher de Dieu. Parce que sans lui, on ne peut pas s'approcher. Ce point est établi. Notre sanctification. Maintenant, nous sommes sauvés par la grâce, par le moyen de la foi, qui est un don de Dieu. Et maintenant, notre sanctification, j'aimerais vous dire aussi qu'elle est un cadeau de Dieu. Il ne faut pas se cacher que dans nos milieux chrétiens, on adopte un langage souvent, et là, notre comportement prend toute la place. Tu sais, ça, c'est... Et si vous avez jamais entendu parler de la sainteté dans les termes de votre comportement, ben, c'est peut-être parce que vous n'êtes pas assez chrétien depuis longtemps. Et si vous n'êtes pas chrétien, peut-être que la personne qui vous a présenté l'Évangile, et ça a passé plus de temps à vous parler de la sainteté et comment qu'on doit avoir une vie pure. Mais Jésus a payé pour ça. Mais ça, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Ma sainteté, la sanctification, est le résultat de l'Évangile dans le croyant. Je ne deviens pas pur afin d'être croyant par la suite. Et peut-être que vous pouvez vous poser la question... souvent, on est tenté de communiquer l'Évangile comme ça parce que c'est tellement facile de montrer que, dans le fond, on est méchant, puis qu'on est tortueux, puis qu'on est idolâtre à peu près avec n'importe quoi. Alors, on utilise un langage comme ça, mais si une personne vous demande « Qu'est-ce que ça va me coûter pour devenir chrétien? » Ou encore « Qu'est-ce qu'il va falloir que j'abandonne pour devenir chrétien? » Comment répondez-vous à la question? C'est une question piège, un peu. Parce qu'il n'est même pas capable d'abandonner pour ça, tu sais. À moins que Dieu intervienne. Ce qui t'empêche de venir à Dieu, c'est tes soucis, ou la séduction des richesses, ou ta pornographie, ou le fait que tu es un voleur compulsif, ou un menteur, ou un colérique, ou, tu sais, laisse ces choses, et laisse tout ça à Dieu, tu sais. Non. Ça va coûter ta vie. Ça coûte tout. C'est toute ta personne qui est transformée. Il ne veut pas changer simplement là, ta petite colère dans ta vie de ce moment précis. Non, c'est toi qui vas être transformé. L'Évangile s'intéresse à vous, pas à vos moments épisodiques dans lesquels vous faites des mauvais comportements. Ça s'intéresse à vous. C'est ça l'Évangile. Et là, bien, il y a deux objections qui font surface. La première, c'est celle-ci. Si je ne peux pas arriver à connaître Dieu par moi-même, puis vous n'êtes pas chrétien ici, je ne sais pas, je ne connais pas tout le monde, bien pourquoi je t'écouterais? De toute façon, si Dieu veut me sauver, il va me sauver. Il n'y a rien que je t'écoute, fait qu'élevez-vous et partez. Non, non, pourquoi je t'écouterais? Et pour les chrétiens, et là, l'objection est très grande. Là, on cherche à comprendre la souveraineté de Dieu, et là, on pose la question de la responsabilité de l'homme, et là, on dit, ouais, mais là, si Dieu est souverain, pourquoi je vais évangéliser? Pourquoi parler de l'Évangile? Dieu va aller chercher ses élus, il n'a pas besoin de moi. Comment répondre à ça? Moi, je suis libre. Alors, si je suis libre de choisir, là, mon évangélisation fait du sens, parce que moi, je vais proposer un choix aux personnes. Et si Dieu est souverain, bien, pourquoi présenter un choix? Dieu va aller chercher. À qui a dit que tu étais libre? La liberté, au sens où ce qu'on l'entend, est un concept qui est arrivé en 1800 après Jésus-Christ environ, ou du moins popularisé par le siècle des Lumières. Pas un concept biblique, la liberté, la volonté libre. Là, je vois pas ça dans la Bible, là, j'ai cherché, mais en Genèse chapitre 3, tu perds quelque chose, la possibilité de connaître Dieu. À ce moment, on devient tout esclave. Un esclave, ben, ça le dit, c'est pas libre. Pas un concept biblique, la liberté, t'sais, comme si on avait inventé quelque chose. Là. Mais la liberté, c'est pas la possibilité de dire oui à tout. C'est la possibilité de dire non à ce qui nous rend esclaves. Mais sans Dieu, vous ne pouvez pas dire non à ce qui vous rend esclaves. Alors, pourquoi j'évangéliserais et pourquoi je continuerais à t'écouter? La meilleure réponse, je pense, c'est celle-ci. C'est ça l'Évangile. Pensez à comment vous êtes devenu chrétien. Il y a quelqu'un qui vous a parlé de l'Évangile. Chaque personne est esclave du péché, peu importe la façon. Et possède pas les moyens ni les ressources de parvenir à la connaissance de Dieu. Et ce qu'il nous faut, c'est l'Évangile. Christ qui est mort pour nos péchés, qui est ressuscité, puis par son Esprit qui va nous donner cette vie, puis qui va nous amener de façon progressive dans cette sanctification, dans ce chemin qui va nous mener à être comme lui qui un jour on va le voir face à face. C'est pas moi qui produis ça, là. J'ai pas à faire ça. Et la repentance et la foi sont appliquées par l'Esprit souverainement. Et la vraie repentance se produit lorsque Dieu rend le cœur capable de se détourner du péché. Dieu nous rend capable de croire. Et cela découle infailliblement de notre nouvelle naissance. Et ça, ça mérite d'être proclamé. La prédication de l'Évangile est le moyen par lequel Dieu va aller chercher ses élus. Oui, on est en train de parler d'élection. Mais comment il va chercher ses élus? C'est par la prédication. Et là, je ne suis pas en train de parler de juste moi en avant. Ce n'est pas ça du tout, là. C'est à travers des vies qui sont transformées par l'Évangile. C'est l'Évangile appliqué, là. Regardez 1 Corinthiens, ça c'est le point qui est fait dans 1 Corinthiens chapitre 1, là. Verset 17. « Car Christ ne m'a pas envoyé pour baptiser, mais pour annoncer l'Évangile, et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. » Voyez-vous le haut standard qu'il a de l'Évangile? « Car la parole de la croix est folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est puissance de Dieu. » Et là, il continue. Puis il parle de cette prédication. Il a plu à Dieu, verset 21. Car puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu Dieu, c'est sûr, on ne peut pas y aller, on est mort. N'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu. Il a plu à Dieu de sauver le croyant par la folie de la prédication. Croyez-vous à la prédication? La prédication par une vie transformée par l'Évangile. Et on a un exemple de tout ça, là. Mais comment ça fonctionne, tout ça? De façon très simple, dans Actes 48, il nous dit, c'est Paul à Antioche, puis il a le mandat, tu vas là-bas, puis il dit, tu proclames l'Évangile. Car mon peuple est nombreux. Mais ton mandat, c'est pas de trouver les élus, c'est de proclamer l'Évangile. Alors, qu'est-ce que Paul fait? Bien, il arrive à Antioche, puis là, à la fin de sa campagne d'évangélisation, il y a ce petit verset, c'est comme si de rien n'était, verset 48, acte 13. Les païens se réjouissaient en entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Quand est-ce la dernière fois que vous avez utilisé ça dans une campagne d'évangélisation? Hey, j'ai annoncé l'Évangile, tous ceux qui avaient à croire ont cru. C'est pas ma job. Ma job, c'est d'avoir des vies transformées par l'Évangile. C'est l'appel qu'on a. C'est l'appel de Paul là, dans Philippiens. Tu sais, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Et notre conduite va proclamer puis va émaner quelque chose que la société autour de nous n'a pas. Et si on joint des paroles avec ça, parce que la croix, c'est communiqué par des mots, ça, qui provient de la parole de Dieu, là. Et là, par exemple, on a une recette pour répondre à ces fameuses questions. Mais B.B. Warfield, le commentateur des Écritures, a dit ceci. Tentons d'avoir un équilibre là-dedans, parce que nous avons une responsabilité. Oui, Dieu est souverain, mais oui, nous sommes responsables. Mais écoutez ces paroles. L'essence du message de l'Évangile n'est pas la prédestination ou le libre arbitre, mais la grâce. Ses dispositions miséricordieuses pour son peuple. Oui, on essaie de jumeler, là, puis d'essayer d'expliquer la souveraineté de Dieu, puis tu sais, la responsabilité de l'homme. Et comment qu'on peut faire ça? J'en ai aucune idée. Ce que je sais, par contre, les deux sont dans la Bible. Vous voulez des exemples? Acte 4. Alors, tous ceux qui croient au libre arbitre arrivent au verset 27 et nous disent ce qu'on appelle l'arminianisme, si vous voulez mettre un nom. Car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations, avec les peuples d'Israël. Donc, tous ceux qui croient au libre arbitre disent, il est coupable, il est responsable, et voilà dans les dents. Et tous les calvinistes répondent par le verset 28, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et là, les calvinistes disent tous « Amen ». Qui a raison? Les deux sont là. J'ai-tu à dire, à m'asseoir sur une chaise puis dire « Oh non, Dieu est souverain, il va me donner à manger ». Non, non, à un moment donné, il dit « Prends ta fourchette puis amène-la à ta bouche ». Tu sais, oui, c'est correct, là, tu sais, je suis souverain, mais en quelque part, tu sais... Mais là, es-tu capable de tout l'expliquer? Non, les deux sont là. Vous en voulez un autre, parce que c'est pas juste dans le Nouveau Testament. Dernier chapitre de Genèse, chapitre 50. Et là, ben, il y a ce beau passage avec les frères de Joseph. Et Joseph, il dit, au verset 19, 50-19, « Soyez sans crainte, en effet, suis-je à la place de Dieu? » Parce qu'il savait qu'il était responsable. Et Joseph savait que ses frères étaient responsables de ce qu'il avait fait. Mais le verset 20, il dit, « Vous aviez formé le projet de me faire du mal. Nous avons des intentions. Nous avons des plans. Et Dieu l'a transformé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie d'un peuple nombreux. Mais Dieu a ses plans. Et souverainement, il travaille. Comment ça fonctionne? Je ne sais pas. Les deux sont là. Alors soyons équilibrés dans ça. La sanctification résulte des réalités de l'Évangile. Et l'Évangile, c'est la manifestation de la personne même de Dieu dans notre vie. C'est son existence. Mon troisième point. Notre sanctification est alimentée par notre foi. Nous sommes justifiés, nous sommes placés en Christ à cause de l'œuvre de la croix de Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés aussi à cause de l'œuvre en croix de Jésus-Christ. C'est le même principe qui s'applique. Et je peux être justifié par la foi, et le même principe va s'appliquer aussi dans la sanctification. 1 Corinthiens 1:30 nous dit « Jésus-Christ a été fait pour nous sanctification. » Il est notre sanctification. Christ qui travaille en nous est notre sanctification. Il a été fait, comment? L'œuvre de la croix. Et pour nous, il est notre sanctification. Et je veux être clair, rien ne repose sur notre foi. Tout repose sur Christ. La foi, c'est simplement la main qui accueille les promesses de Dieu, qui saisit le plan de Dieu, qui saisit ce que Dieu veut pour nous. C'est juste la main qui tend. C'est ça la foi. La foi est l'instrument qui permet de porter du fruit dans la vie chrétienne. C'est le Saint-Esprit, l'agent qui me permet de porter du fruit. Dit autrement, lisons les fruits de l'Esprit. Dans Éphésiens, dans Galates, Galates 5, verset 22, « Mais le fruit de l'Esprit est amour, joie, patience, bonheur, bienveillance, foi, douceur, maîtrise de soi. » Frères et sœurs, amis, ça, c'est par grâce. C'est par la grâce. Et j'aime les paroles de Francis Schaeffer. Une vie chrétienne normale porte du fruit. Il y a des océans de grâce en réserve, verger sur verger, vigne sur vigne, attendent, chargés de fruits. Si la vie chrétienne reste infertile, cela provient d'une seule cause. L'outil de la foi a été négligé et l'esprit s'est éteint. Et quand il dit éteint, il n'est pas en train de dire qu'il perd le salut, là. Parce que le salut ne résulte pas de votre performance. Et ça, c'était les 6 chapitres qui précédaient cette citation. Mais il est en train de dire que cette foi, c'est cette main qui saisit tout ce vigneron que le Seigneur met à notre disposition. Mais oui, on a une part de responsabilité là-dedans. À un moment donné, il faut que je la mette la main. Mais comment ça fonctionne? On vit notre vie chrétienne. Puis par la foi, je saisis Christ, puis je veux vivre pour Christ. Quelques applications qu'on peut tirer. Appliquées à cette exhortation de Paul, conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile de Christ. Conduisez-vous. Et s'il prend la peine de donner cette exhortation, et c'est ce qui est développé aussi dans la suite du texte, c'est vraisemblablement parce que ça ne se fait pas d'un coup sec. Philippiens 1:27, quand Paul écrit ses paroles, 1:27-30, il est en prison. En fait, il est en train d'attendre probablement sa propre mort. C'est pour ça qu'il dit « Afin que soit je vienne, soit que je meure, et je reste absent, j'entends dire de vous » au chapitre 1er, verset 21, « Car pour moi, la mort est un gain. » Il sait qu'il va probablement mourir. Et puis, il sait qu'à cause des persécutions que les Philippiens vivaient, bien, il y a un risque qu'il abandonne la foi. Et que la séduction de ceux qui viennent proclamer Jésus plus la loi de Moïse les emportent et disent, coudonc, ben si on peut s'éviter les persécutions avec ça. Et là, il y a ces personnes qui rentrent dans l'Église, qui dénaturent l'Évangile, qui amènent un Évangile. Et là, il y a le risque qu'ils laissent, puis ils disent, non. Regardez à l'Évangile et conduisez-vous dignement de ça. Et le modèle qui est donné, et là, c'est le bel exposé qu'on a dans le chapitre 2, avec les compassions de Jésus, la condition comme celle de Dieu qui continue. Et c'est le modèle qui nous laisse, c'est l'Évangile. Et qu'est-ce que nous pouvons apprendre de ça? Notre obéissance n'est pas en contradiction avec la grâce. Pas une contradiction, notre obéissance et la grâce. En fait, la grâce est destinée à transformer des vies. Oui, pour le salut, mais aussi dans notre vie. Et quand on pêche, et quand on est tellement déçu et que la honte provient puis que de ce péché qui, moi, pour moi, me semble impardonnable, mais sachez que ce n'est pas le fruit de votre, de votre performance, la grâce. La grâce existe. Paul nous dit que c'est le sol dans lequel nous allons croître. Croissez dans la grâce. On peut le voir en termes de processus, la croissance, mais on peut le voir aussi en termes de sol, dans la grâce. Et oui, quand on pêche, le Seigneur va nous ramener. Pourquoi? Parce que la grâce existe. La vie chrétienne normale doit être motivée par la grâce. La grâce, c'est notre source de motivation. Et remarquez dans le Nouveau Testament combien de fois Paul et les autres auteurs du Nouveau Testament attirent l'attention et veulent élever Jésus-Christ puis dire, regardez, là, c'est ça, c'est notre modèle, c'est comme ça. Puis regardez, c'est pas... Lisez le premier chapitre d'Éphésiens, puis c'est une phrase en grec. Et là, c'est une inondation de bénédictions qu'on a en Jésus-Christ puis la grandeur de cet évangile. Puis c'est ça notre source de motivation. C'est le terrain dans lequel on doit se tenir. Et je mets ma foi en Dieu. Et oui, je le sais, je ne suis pas capable de vous expliquer comment que Dieu souverain nous donne cette foi. Puis moi, dans ma responsabilité, je veux tendre vers ça et saisir ça puis dire, coudonc, c'est tellement merveilleux que je veux vivre pour Jésus. La grâce, c'est notre source de motivation. Dans Tite 2, je pense qu'il y a plusieurs passages qui me viennent dans la tête, mais Tite 2, ça en est un bon, 2, 11. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée, donc la grâce, elle nous sauve. Elle nous enseigne, donc elle continue à agir. Comment? Comme un pédagogue. Mais un pédagogue qui nous amène à quoi? À renoncer à l'impiété, au désir de ce monde, à vivre dans le siècle présent d'une manière sensée, juste et pieuse. Vive en ayant les regards fondés, posés sur la grâce. C'est une manière intelligente de vivre qui nous amène quoi? À adopter une vie de sainteté joyeuse. Mais la foi n'agit pas de manière isolée. Continuons la lecture de notre texte, verset 27. « Seulement conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que soit que je vienne vous voir, soit que je reste absent, j'entende dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit, combattant de même âme et pour la foi de l'Évangile. » Si on enlève la proposition secondaire, c'est-à-dire « afin que soit que je vienne vous voir », et ça, c'est secondaire dans le verset. Mais l'exhortation est celle-ci. « Conduisez-vous d'une manière digne de l'Évangile, afin que j'entende dire de vous que vous demeurez ferme, dans une même âme pour la foi. » La foi n'agit pas de façon isolée. Ça se fait en communauté. Il y a un auteur qui disait, « L'Église est le laboratoire de la sanctification. » J'aime cette phrase. Elle nous rappelle notre responsabilité. Un rien éloigne notre amour. Un rien nous éloigne de l'amour qu'on doit avoir envers notre Église. N'importe quoi. Et on remplace facilement notre implication dans l'Église par nos préférences. Et on oublie que l'Église est l'œuvre de Dieu, dans le plan de Dieu. Et je dis qu'un rien nous éloigne, et là, je ne suis pas en train de dire que les divorces, et ça nous éloigne, les divorces. Effectivement, les divorces, ça nous éloigne. Mais pensons un peu plus proche dans notre vie. Et je vais prendre ce que j'aime le plus, Facebook. Je déteste tous les réseaux sociaux. Mais combien de temps investissez-vous dans vos réseaux sociaux? Et là, je ne suis pas en train d'accuser les jeunes. Je ne suis pas en train de me dire, « Hey, les jeunes, hein, Facebook, j'ai entendu, je crois, plus de divorces ou de séparations chez les couples mariés depuis plus de 5 ans qui ont découvert un jour Internet en quelque part et qui ont décidé d'aller coucher avec un voisin. Les jeunes, là, ils vivent dedans, là. J'ai pas eu de cas encore au face-à-face avec les jeunes là, de séparation due par quelque chose qui s'est passé sur Facebook. Alors, je peux vous compter des divorces, par exemple. Mais c'est pas juste les jeunes. Mais combien de temps passez-vous sur ces choses? Ou la télévision, ou peu importe, là, j'ai nommé celle-là parce que je le déteste, là, mais... Et j'ai manqué l'église. Ah, c'est pas grave, je vais... Je m'en écoutais sur Internet. T'sais, j'aime Internet. Je n'ai écouté des prédications, j'étais facteur. J'écoutais en moyenne 4 prédications par jour pendant 5 jours par semaine pendant 3 ans. Hey, j'aime écouter des prédications. Mais il n'y a pas une prédication qui va remplacer un café avec quelqu'un. Écouter sur Internet à distance. Pas un. Il y a quelque chose de relationnel dans la prédication. La technologie remplace souvent notre communion et nos relations. Ça remplace notre redevabilité, notre soumission à l'autorité spirituelle dans l'Église et des autres chrétiens en vue de notre sanctification. C'est un combat contre tout ce qui n'est pas produit par la foi. C'est ça, la sanctification. Et si ça, c'est un problème, hey, ils sont rendus avec des camps désintox de Facebook. Tu sais, c'est ridicule. C'est vrai. Vous pensez que vous ne l'êtes pas? L'esclavage, c'est quoi? La capacité de dire non à ce qui me rend esclave. Êtes-vous capable d'arrêter? Et si vous n'êtes pas capable d'arrêter, ben on appelle ça de l'esclavage. Eux autres, ils appellent ça des addictions. Un comportement répétitif qui amène de la honte et tout le reste. Là. C'est la même affaire. Paul veut qu'on vive droitement pour que l'Évangile ne soit pas diminué, mais quand on va vivre comme ça, on va avoir de la persécution. Et je lisais un article où il parlait de ça récemment, puis il disait quelque chose d'intéressant. Il nous disait, « Vivre droitement pour l'Évangile amènera inévitablement des persécutions. » Mais ce qui m'a étonné dans son article, c'est qu'il a rajouté ces mots, « même dans l'Église. » Et si vous êtes assez chrétien depuis longtemps, vous êtes chrétien depuis assez longtemps, excusez, assez chrétien, c'est ça. Là, je manquais tout mon point à cause d'un lapsus, tu sais. Si vous êtes chrétien depuis assez longtemps, vous savez ça. C'est pas tout le monde dans l'Église qui est aimable plus que lui ou lui ou lui ou l'autre ou peu importe. Mais j'aimerais vous donner une bonne raison d'aimer l'Église. Juste une. Jésus-Christ l'aime. Aimons notre Église. Oui, il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Puis on est dans des transitions, on le sait. On le sait là, que ça est en train de... Tu sais, regardez, là, vous avez... regardez juste l'équipe des diacres. Là. C'est quasiment tout des nouveaux. C'est tout de la jeunesse. Moi, je suis content puis je me réjouis de ça. Il y a de la jeunesse et il commence à avoir un leadership nouveau. Il y a d'autres personnes qui commencent à s'investir. Un nouveau dirigeant, tantôt, il commence à venir diriger face à face. Il y en a qui commencent tranquillement pas vite à vouloir enseigner. Tu sais, c'est le fun, ça, mais il faut aimer notre Église. Mais écoutez ce qu'Albert Mohler a dit. Nous devons avant tout aimer l'Église. Après, nous pourrons la réformer. Aimons l'Église. Christ l'aime. Puis quand il dit « j'aime l'Église », il ne parle pas du bâtiment, il parle de vous. L'Évangile concerne vous. Et mon dernier point, puis il faut que je m'arrête, c'est que la foi amène le croyant à rechercher la sainteté et le service, motivé par cette grâce. La grâce nous pousse vers un service dans la joie, dans la sainteté avec joie, parce qu'elle est motivée par la grâce. Et simplement résumer mon point avec cette phrase. Il sera impossible de vivre la vie évangélique à moins que l'Évangile lui-même soit une passion et une joie débordante pour vous. Nous sommes appelés à vivre une vie qui est consistante avec la grâce glorieuse de l'Évangile de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, merci pour ta parole. Et je suis conscient que mes mots sont bien faibles pour expliquer ta souveraineté et notre responsabilité. Mais on voit les deux, Seigneur. Et donne-nous d'être équilibrés. Donne-nous d'avoir une vie qui manifeste la grâce, qui manifeste l'Évangile, qui manifeste ta personne, Seigneur. Et s'il y a quelqu'un ici qui n'est pas chrétien, Seigneur, je te demander de l'attirer à toi. Rends-toi désirable pour lui. Et s'il y a des chrétiens qui ont perdu cet émerveillement de la grâce, Seigneur, touche leur cœur d'une façon particulière afin qu'ils puissent être émerveillés par ta personne, émerveillés par ta grâce. Aide-nous à aimer ton Église, parce que c'est le lieu que tu nous donnes afin qu'on puisse croître dans ce sol de la grâce, Seigneur. Sépare-nous avec ta bénédiction, Seigneur, et réchauffe nos cœurs par ta parole.